chaque mois, avec l'association Un regard pour toi qui soutient les non-voyants, nous nous retrouvons, nombreux, lors d'un rendez-vous téléphonique. Découvrir, décrire, déchiffrer. Ce podcast est la trace orale de notre déambulation d'avril 2021 qui nous conduisit aux confins de l'Afghanistan. Partons flâner les yeux fermés avec un regard pour l'art. Il y a 20 ans, le 11 mars 2001, les Bouddhas colossaux de la vallée de Bamiyan étaient soumis à une furie destructrice, iconoclaste. 15 ans plus tard, le plasticien Pascal Converte fut invité par l'ambassade de France en Afghanistan, avec d'autres artistes, pour travailler sur la mémoire de ce lieu. Avec une œuvre de plus de 16 mètres de long, l'artiste nous plonge dans la chair de la pierre. Il nous donne à voir la falaise dans son moindre grain de sable. Partons sur ses pas pour un long voyage en Afghanistan, aux temps anciens des routes de la soie et de l'expansion du bouddhisme. Après un long voyage, difficile, chaotique, éreintant peut-être, nous arrivons dans la vallée de Bamiyan, sur le plateau central de l'Afghanistan. Nous sommes à quelques 2500 mètres d'altitude, dominés par les hautes montagnes de l'Hindou Kush, dont les sommets, coiffés de neige perpétuelle, culminent à plus de 7000 mètres. Le paysage est à couper le souffle. Majestueux, grandiose, sublime. Nous sommes sur le toit du monde. Ce lieu est particulier de par sa position géographique. Dans la même journée, l'on peut y boire l'eau de 4 fleuves différents. Situé au carrefour de routes en terre convergeant du nord, du sud et de l'est, escale sur l'une des routes de la soie qui relie la Chine à l'Europe, Bamiyan est à mi-chemin entre le continent indien et la plaine de l'Oxus. À mi-chemin entre Peshawar, cité antique de l'Inde ancienne, et Balkh, ville qui a vu passer Alexandre le Grand, Marco Polo, Ibn Battuta. La vallée de Bamiyan s'ouvre sur un large bassin bordé par un long défilé de hautes falaises rocheuses. Depuis la colline de Charegolgola, perdue dans ce vaste océan de montagnes, notre regard plonge sur la ville, son bazar, son école. Une petite structure maçonnée, surnommée Tolumbai par les habitants Hazara, ressemble à un champignon de pierre. Ce sont les restes d'un des plus célèbres édifices médiévaux de Bamiyan, le grand stupa. Les falaises sont ocres, les niches sont visibles, béantes. L'histoire fait vibrer ce lieu. À partir du deuxième siècle de notre ère, les fondations bouddhiques se développèrent de façon vertigineuse, sous l'impulsion de l'empereur Kushan Kanishka. Il y a quelques 1500 ans, Bouddha est arrivé dans les parages. Le philosophe Didier Huberman, dans son manuscrit « Entre-temps, ritournelle de Bamiyan », exposé aujourd'hui au Louvre-Lens, évoque ainsi ces temps immémoriels du bouddhisme florissant à Bamiyan. Bouddha est arrivé dans les parages. Il a essaimé dans les innombrables anfractuosités de la falaise comme autant de cellules de méditation pour les moines. Il s'est dilaté jusqu'à des hauteurs inouïes qui ont stupéfié tous les voyageurs. Bamiyan est alors devenue la falaise aux mille trous, la falaise aux mille lieux de contemplation, des yeux dirigés vers nous, vers le monde, et pourtant retirés de lui, intérieur. Bamiyan est aussi la falaise aux grands dieux, gigantesque corps paisible, impassible, inoffensif, souriant, souverain. Les caravanes passent, les pèlerins affluent, certains en route vers l'Inde arrivent de la Chine lointaine. Ainsi en est-il du moine bouddhiste chinois Xuanzang, l'un des quatre plus grands traducteurs de sutras bouddhiques de l'histoire de Chine. Cette figure est aussi célèbre en Asie que Marco Polo en Occident. Nous sommes à l'époque des Tang, vers l'an 630 de notre ère. Xuanzang entreprit un voyage périlleux afin d'approfondir sa connaissance de l'Inde et du bouddhisme. De ce long périple, qui dura une quinzaine d'années, il rapporta quelque 657 livres, aidés par une vingtaine de chevaux, à l'empereur Taizong, fondateur de la dynastie Tang, qui régna sur la Chine pendant 3 siècles. Le témoignage de ce moine, dans son récit intitulé « Rapport du voyage en Occident à l'époque des grands Tang », nous éclaire sur le Bamiyan tel qu'il fut à l'apogée bouddhique. Plongeons dans cette époque lointaine. La beauté du site est à couper le souffle. Un palais surplombe la ville. L'activité y est grouillante. Le roi de Bamiyan est alors capable de lever 50 000 hommes. La ville compte alors plusieurs dizaines de stupas, de toutes tailles, en briques de terre. Aux niveaux élevés de ces monuments, de ces stupas, de ces images de culte symbolisant le para-nirvana, l'extinction complète, des banderoles colorées, suspendues, flottent dans le vent. Les couleurs sont vibrantes. Moines, marchands, pèlerins se côtoient. On entend les sutras prononcés par les milliers de moines. Les odeurs d'encens se mêlent à celles de la poussière. Tambours et cymbales résonnent. Offrandes colorées et précieuses affluent. Xuanzang témoigne de la piété des habitants. Je le cite. Par la candeur de leur foi, les gens de ce pays l'emportent beaucoup sur ceux des royaumes voisins. Les Kielang, les monastères, sont au nombre de plusieurs dizaines et les religieux de plusieurs milliers. Comme doctrine, ils suivent la secte Lokottaravadin du petit véhicule. Ces monastères n'avaient pas seulement une vocation religieuse, mais également celle de la transmission des savoirs, de l'écriture, de la science, de l'histoire. Ils jouaient également un rôle économique très important. Ils rendaient de nombreux services aux caravanes et leur proposaient l'hébergement, organisaient parfois prêts ou transferts d'argent. Certains moines menaient des activités industrielles, comme à Messaïnac, non loin de Bamiyan, où ils produisaient du cuivre. Mais revenons aux falaises qui surplombent la ville. Que dire de cette falaise qui fait face au sud ? Que dire de cette paroi vertigineuse, longue d'1,5 km et haute de 100 mètres ? Que dire de ce mur ondulant de roches friables qui se détache au pied des sommets bleus indigo où la neige scintille, tandis qu'au printemps, le jeune blé d'un vert acide emplit la vallée. De niches béantes, creusées à même la pierre, se dressent. Elles abritent les statues de Bouddha debout, colossaux, et encadrent une autre niche de taille plus petite où trône un Bouddha assis. D'innombrables grottes datant du 3e au 5e siècle sont disséminées de façon irrégulière sur cette falaise, où la lumière joue avec les aspérités de la pierre. Ces creux, ces alvéoles, ces espaces troglodytes ne sont pas béants comme aujourd'hui. Ces grottes sont fermées par des façades en bois sculpté. Ces façades sont elles-mêmes peintes et ornées de tissus de couleurs vives. Ces niches sanctuaires sont reliées entre elles par des galeries. Également creusées dans la falaise, des routes, des chemins d'accès, des escaliers en bois permettent de circuler entre ces lieux de méditation et de prière. Ces constructions, ainsi que la sculpture du grand Bouddha, ont nécessité énormément de bois. L'origine de ce bois reste encore aujourd'hui une énigme. À l'intérieur des grottes, la couleur est au rendez-vous. Les parois des niches sont couvertes de peintures figurant de multiples images du Bouddha, des images de stupas, de donateurs, de représentations religieuses. La technique est celle de la fresque, cette technique spontanée qui ne laisse pas de place au remords, au repentir. Il s'agit déjà de peinture à l'huile. Les pigments donnent toute leur intensité au motif, tracé en un seul trait, d'un geste juste. Sculptures et éléments d'architecture moulés, colorés eux aussi, participent au décor foisonnant. Entrons dans ce dédale de grotte. En passant d'une niche à l'autre, nous constatons l'évolution du dispositif architectural au fil du temps. Il aura fallu plus d'une bonne centaine d'années à l'édification de ces monuments, témoignages majeurs de l'art gréco-bouddhique. Les plus anciens sanctuaires avoisinent la grotte du petit Bouddha de 38 mètres. Certains, de plan carré, sont surmontés d'une coupole. Plus loin, nous découvrons des grottes de plan octogonal. Certains plafonds sont animés de fausses poutres taillées à même la roche, imitant les plafonds de bois. Les tendances décoratives s'épanouissent également à mesure que l'on s'approche du grand Bouddha de 55 mètres. Certaines fresques témoignent d'influences hellénistiques, chevelures ondulées, finesse des traits et des drapés. D'autres, aux inspirations plus indiennes, peuvent faire penser aux fresques du Vihara d'Ajanta, grotte rupestre, monastère excavé en Inde, dont la fondation remonte au 3e siècle avant. Là, des têtes de sangliers aux accents sassanides s'inscrivent dans les médaillons au plafond, aux côtés de motifs de chevaux ailés, de fleurs de lotus, d'oiseaux retournant leur tête et tenant dans leur bec des colliers de perles. Les inspirations sont multiples. Entrons dans une grotte. Là, bordant à droite et à gauche les bouddhas du sommet de la voûte, apparaissent des corps féminins aux formes opulentes, représentés à mi-corps. Ces figures sont toutes nimbées. Les jambes sont dissimulées par un balcon à décor de balustrade. On distingue deux types ethniques. Des indiennes, à l'épiderme foncé et à la chevelure noire. Des iraniennes, à la carnation claire. Leur chevelure est ornée de fleurs. Presque toutes ont la poitrine nue et portent des bracelets, des colliers, des écharpes flottantes. Cette description, extraite de la publication de la délégation archéologique française en Afghanistan, intitulée « Le site archéologique de Bamiyan, guide du visiteur », fut publiée en 1934. Ces femmes ne sont pas sans rappeler les figures des apsaras, peintes dans les grottes d'Ajanta, ou encore celles sculptées au stupa de Sanchi, en Inde. Ces apsaras, ces nymphes célestes d'une grande beauté, issues de la mythologie hindoue, associées à des rites de fertilité, furent intégrées dans le panthéon bouddhique. La falaise de Bamiyan a été, elle est et elle sera. Évoquons maintenant les deux Bouddhas sculptés, les deux colosses mystiques, comme les qualifie Joseph Kessel. Ils sont ahurissants par leur taille, 38 mètres et 55 mètres. Le plus petit serait plus ancien. La datation au carbone donne environ milieu du 6e siècle pour celui de 38 mètres et début du 7e pour celui de 55 mètres. Xuanzang nous dit « Leur teint d'or est éclatant et les ornements précieux resplendissent. Ils sont en effet éblouissants par la couleur dorée de leur peau, vibrants par la polychromie de leur décor, resplendissants par leurs ornements en matériaux précieux. Ils nous invitent à faire le rite de circumambulation, c'est-à-dire à tourner autour d'eux, vers la droite, au niveau de leurs énormes pieds nus, mais aussi au niveau de leur tête. Il est encore possible aujourd'hui de monter à ce niveau et de contempler quelle était leur vue de la vallée. Le Bouddha de 38 mètres, aux formes très lourdes, taillé grossièrement dans la masse de la falaise, a été recouvert d'un enduit de terre au moyen duquel on a rendu le drapé du manteau monastique. Sa chevelure est tondée. Au sommet de sa voûte, un dieu lunaire, Surya, auréolé d'un disque radié en dents de scie, à l'intérieur duquel est inscrit un croissant. Ce dieu lunaire, auréolé, est debout sur un char, tiré par 4 chevaux ailés. De chaque côté de cette composition, à la hauteur de la tête du Bouddha, se trouvent 2 rangées de personnages, placés derrière une balustrade. Un relevé, établi par Jean-Carl dans le cadre de la délégation archéologique française en Afghanistan, est actuellement présenté au musée Guimet, dans le cadre de l'exposition intitulée « Des images et des hommes, Bamiyan, 20 ans après ». Ce relevé de dimension exceptionnelle, 2,85 m sur 1,85 m, fut réalisé à la gouache. Cette œuvre est l'une des traces des trésors aux couleurs chatoyantes que dissimulaient ces 750 grottes creusées à flanc de montagne. La trace de ce qui n'existe plus. Poursuivons notre exploration. Arrêtons-nous maintenant au pied du Bouddha de 55 mètres. Comme nous l'avons dit, il est postérieur au Bouddha de 38 mètres. La statue est plus élaborée. Il est plus photogénique, pourrions-nous dire. Au temps de Xuanzang, notre colosse présente l'Ushnisha, la protubérance crânienne, signe de la transcendante intelligence du Bouddha. Ses cheveux bouclés sont marqués par l'influence de l'art du Gandhara, qui se développe dans cette région du nord-ouest de l'Inde au début de notre ère. Sa main droite levée en Abhaya Mudra protège les visiteurs qui ont parcouru un long chemin jusqu'à lui. Son sourire est bienveillant. Sa main gauche pend le long du corps. Pour compléter et clore cette évocation de ces falaises, dans cette ère du bouddhisme florissant, je souhaiterais citer le témoignage d'Ali Hazara, réalisateur afghan contemporain, qui lui-même reprend les mots de sa grand-mère et dit « Ma grand-mère évoquait un âge d'or qu'elle-même n'avait pas connu. C'est le Bouddha qui le symbolisait. Elle disait qu'il était complètement recouvert d'or et qu'il avait des yeux de rubis. Qu'on avait utilisé de l'émeraude dans de nombreuses parties de son corps. Quand le soleil donnait, le reflet des rayons sur les vêtements dorés éclairait toute la vallée, et cette vallée était la vallée de la lumière. La falaise de Bamiyan a été, elle est et elle sera. Dès les 7e et 8e siècles, les premières secousses vinrent ébranler cet âge d'or. Les invasions arabes commencèrent. Il ne s'agissait pas d'une guerre sainte, mais plutôt d'une quête de pouvoir et de richesse. Elles ne signèrent pas l'arrêt du bouddhisme dans la région de façon subite. En 727, le moine coréen Yeko, de passage à Bamiyan, témoigne. il y a encore beaucoup de moines et de monastères. Les sanctuaires restent inviolés. La tolérance religieuse est de mise. Pourtant, progressivement, les non-musulmans deviennent des citoyens de second rang. Jour après jour, le statut social des élites bouddhistes s'érode. La conversion des populations est graduelle et subtile. L'envie de prospérité et de statut participe sans doute à cette évolution. La falaise de Bamiyan a été, elle est et elle sera. Ce lieu, témoin des passages lucratifs des caravanes, est aussi le théâtre de violentes incursions. 1221. En l'an 1221, Genghis Khan efface la ville. Suite à la mort au combat de son petit-fils Mutugen, il ordonne que tout être vivant, aussi bien homme que bête, fût tué, qu'il ne fût fait aucun prisonnier, et jusqu'à l'enfant dans le ventre de sa mère, qu'aucun être ne fût laissé vivant. Qu'après les événements, aucune créature n'habita plus cet endroit et n'y construisit plus rien, et qu'on donna à ce lieu le nom de Maobalig, c'est-à-dire ville mauvaise. Ce qui reste, l'ahurissante beauté du site et les Bouddhas colossaux. La falaise de Bamiyan a été, elle est et elle sera. Après cette malédiction, le temps s'écoule. Le site reste longtemps désert. Plusieurs dizaines d'années plus tard, un nouveau peuple s'installe dans la vallée. Il descend des colons militaires établis dans le pays au moment de la conquête mongole. Il s'adonne à la culture et à l'élevage. Les grandes routes continentales du commerce sont progressivement supplantées par les voies maritimes. Ce peuple Hazara crée et raconte sa propre histoire sur ses monuments. Le plus grand Bouddha est considéré comme un homme, le plus petit comme une idole féminine. Les Bouddhas sont rebaptisés. Salsal, la lumière éclaire l'univers, et Shamana, reine-mère. Au long des siècles, le vol, l'érosion, le vandalisme, le saccage ordinaire, les gestes iconoclastes, défigurent peintures et sculptures du site. Les grands Bouddhas ne sont pas épargnés. Les photos des années 1930, exposées actuellement au musée Guimet, témoignent de cette dégradation au long cours. Des échelles de cordes installées le long de la falaise attestent de l'organisation mise en place pour faire violence à ces images. Mars 2001. Le chef des talibans, Mullah Muhammad Omar, ordonne la destruction des statues géantes. Toutes les fausses idoles doivent être détruites. Entre janvier et mai, Mullah Muhammad Omar ordonne également des massacres de populations civiles Hazara. Le bouddhisme a disparu de la vallée depuis plus de 1000 ans. Depuis très longtemps, plus personne ne vénère les Bouddhas. La destruction des idoles prend 2 semaines. Dynamite, explosifs, détonations, artillerie, tirs de roquettes, armes antiaériennes, des moyens faramineux sont déployés. Désolation. La falaise de Bamiyan a été... Elle est et elle sera. En 2019, la documentariste Sonia Kronlund se rend sur place à Bamiyan. Elle partage son expérience dans l'émission Les Pieds sur Terre de France Culture. Elle nous éclaire sur la façon dont les crimes contre les statues se sont déroulés. Elle nous fait entendre le témoignage de 2 hommes qui ont participé à cet événement funeste. Les témoignages de 2 briseurs d'idoles, de 2 destructeurs de Bouddha. Écoutons l'un d'entre eux.
Salam.
اسم من سید مرزا حسین است باشنده بامیان هستم من فعلا در مرکز بامیان همین زندگی مون در مرکز
چه من پل سید ملبوس J'habite à Bamiyan, dans le centre-ville. Je vis ici, dans le centre. J'ai été témoin de la scène de la destruction des Bouddhas. Et je peux tout vous raconter. Ils nous ont choisi, nous, parce qu'on était un peu leurs esclaves. Que nos vies ne valaient rien à leurs yeux, puisqu'on était chiites, Hazara. Et si une décharge explosait, ça n'importait pas. Il fallait que ça tombe sur nous, et pas sur eux. Tout ce qu'ils voulaient, les talibans, c'était détruire l'héritage culturel qu'il y avait à Bamiyan. Et comme prétexte, ils utilisaient le fait que les Hazaras avaient pour Dieu ces Bouddhas et qu'il fallait absolument les détruire à cause de ça. Les gens sont morts pendant la destruction des Bouddhas. Les talibans allaient aussi tous les jours dans les villages pour tuer des gens. Tous les jours.
Les élans de protestation s'élèvent, aussi bien dans les pays à dominante bouddhiste, comme le Japon et le Sri Lanka, que dans le reste du monde. Depuis la Convention de La Haye, en 1954, l'atteinte aux biens culturels en cas de conflit armé, l'atteinte à la mémoire des hommes, à leur patrimoine, est considérée comme un crime contre l'humanité. Qu'en est-il sur place ? Pour fêter leur succès, les talibans sacrifièrent 100 bœufs en Afghanistan. Les Afghans, eux, témoignent. C'est un des pires moments de l'histoire du pays. J'aimerais vous faire partager les mots de Atiq Raimi, romancier et réalisateur afghan. Né à Kaboul en 1962, prix Goncourt en 2008 pour son roman « Singh et Sabour, pierre de patience », il partage avec nous ses souvenirs d'enfance et sa vision de cet événement.
J'étais petit, tout petit, quand j'ai vu la première fois les statues du Bouddha. Mon père, il travaillait comme gouverneur dans la région. Et tous les vendredis, bien sûr, on allait nous promener dans les vallées, au bord du lac, au pied des statues de Bouddha. À cette époque, bien sûr, je n'avais aucune conscience de sa valeur historique, de sa valeur identitaire. Je le voyais comme un monument énorme, très énorme et grand. Pour nous, c'était une sorte, bien sûr, de statue de Dieu. Et puis, ce qui m'amusait, c'est toutes les légendes qu'on racontait à propos de ces Bouddhas. On leur donnait, bien sûr, des origines très mystérieuses, très légendaires, mythiques. Et personne ne parlait justement de sa valeur historique, de sa valeur identitaire, et de ce que c'était l'Afghanistan avant l'islam. Comme si on voulait faire vraiment, même déjà à l'époque, une sorte de rupture avec notre passé. Les islamistes, et puis les jeux géopolitiques dans la région, voulaient de nous éloigner de nos origines. Vous voyez, c'est très facile pour dominer un peuple, pour détruire un peuple. Il faut juste détruire leur identité. On avait oublié l'Afghanistan. Et les Bouddhas étaient là pour faire appel au monde entier, pour attirer l'attention du monde entier. Et les deux Bouddhas se sont sacrifiés pour ça.
La falaise de Bamiyan a été, elle est et elle sera. Après ce long périple, dans le temps et dans l'espace, revenons en France où se tiennent actuellement deux événements culturels en lien avec ce lieu, en lien avec les Hazaras, en lien avec les Bouddhas. Comme je l'ai évoqué, le musée Guimet propose l'exposition des images et des hommes, Bamiyan, 20 ans après, qui met en relation des œuvres réunies lors des fouilles menées dans les années 1920-1930 par Joseph et Ria Aquin. Des photographies prises à l'époque, le relevé de la grotte du Petit Bouddha réalisé par Jean-Carl, une abondante documentation et différentes œuvres de Pascal Converte, dont le panorama photographique intitulé « La falaise de Bamiyan », daté de 2017. Il s'agit d'une œuvre monumentale constituée de 15 panneaux. Cette composition photographique, ce paysage poétique, cette œuvre singulière est d'une technicité remarquable. L'artiste nous l'explique lors du vernissage en ligne de l'exposition du musée Guimet. Écoutons-le.
C'était en 2016, à l'invitation de l'ambassadeur Marlot, qui a été très courageux pour l'occasion, parce qu'il n'y a personne qui voulait voir des Français, encore moins des artistes, habillés d'orange, se retrouver sur les chaînes de télévision. Donc on est parti en mission là-bas avec une société Iconem, qui sont des amis, qui font des scans 3D des sites en péril. Et ce que j'ai réalisé, ce que je voulais réaliser, que j'ai réalisé, c'est une empreinte de la falaise. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, cette falaise que vous avez vue est constituée de 4000 images qui ont été tuilées et, pour former une seule image extrêmement lourde. Et après, j'ai renversé le temps en utilisant un processus très ancien qui s'appelle une révélation platine contact palladium, où en fait l'image rentre dans le papier. C'est exactement comme l'insolation de l'échelle d'Hiroshima, en fait, on a un effet où le grain de la falaise rentre dans le grain du papier pour faire un seul objet. Et ce qui est un objet de mémoire, justement de mémoire à la résistance, à la fois pour les gens qui vivent là-bas et aussi pour nous tous dans ces sombres périodes.
Pascal Converte a donc su marier la magie de cette technique ancienne du platine palladium, inventée en 1880, avec celle d'un drone équipé d'un appareil robotisé. L'image est comme vue avec un œil de faucon. L'hybridation de ces deux techniques, qui permettent la synthèse de milliers de relevés photographiques et de scans 3D, crée une œuvre monumentale. Les sciences et l'art se fécondent. Pour réaliser cette image tellement définie qu'on a l'impression d'avoir un objet en trois dimensions, Pascal Converte a collaboré avec l'architecte Yves Hubelmann, qui nous en apprend plus.
Cette image, aujourd'hui, qu'on a de la falaise, c'est un écorché, en fait. Et le fait d'avoir une qualité aussi grande pour pouvoir voir la falaise, bah, ça permet de voir tous les phénomènes d'érosion et notamment les phénomènes de coulure qu'on voit ici.
Hein. C'est fantastique, hein. Voilà. C'est dément.
Parce que cette falaise, donc, elle a souffert de la destruction violente, mais elle souffre au quotidien de l'érosion, en fait, qui la fait disparaître et qui fait disparaître petit à petit les grottes.
Si tu peux remontrer le visage, voilà, c'est fantastique. Voilà. Ouais. Et on a un visage décorché, on dirait détruit, massacré, mais on a un visage. Dans le Bouddha, pour moi, ils sont toujours présents à Bamiyan. D'une certaine manière, ce travail qui a été fait d'archéologie, de relevé, démontre que l'échec des talibans. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que la falaise de Bamiyan a été, elle est, elle sera. C'est-à-dire qu'il y a une capacité de résistance de la poussière même, voilà, à la barbarie, à la stupidité.
Nous sommes maintenant au pied de cette œuvre. Nous sommes au pied de cette succession de photos verticales, de ces photos noires et blancs qui se déroulent comme un roman chinois. Nous sommes au pied de la falaise de Bamiyan. Éblouissement, stupeur. Cette vue est à couper le souffle par sa beauté, sa monumentalité. Nous sommes sur ce haut plateau d'Afghanistan. Nous sommes à Bamiyan. nous nous approchons, et là, c'est l'infiniment petit qui s'offre à nous. Chaque grain de sable, chaque pierre se détache. C'est maintenant l'envie de toucher qui domine. L'envie de faire couler la terre de Bamiyan entre nos mains. L'envie de passer la main sur les plis de cette roche, rugueuse, râpeuse, ravinée par le temps. Les grottes sombres nous invitent à pénétrer dans la falaise. Ici et là, quelques murs aux pierres régulièrement empilées. Des portes en bois ferment leur ouverture béante. Ces falaises, ces maisons troglodytes, sont-elles encore habitées? Quelques rares personnages sont là, au pied de ce vertigineux mur de pierre. Ils nous donnent l'échelle. Ils sont microscopiques. Le paysage est sublime. Ici, l'eau a raviné la falaise. L'érosion a fait son œuvre. Mon regard remonte le long de cette faille. Elle me conduit plus haut, dans une zone où la pente est plus douce. Je crois entendre l'une des pierres qui se détache et glisse, pour rejoindre les boulis de pierre, un peu plus bas. Chaque fois que je m'approche, j'ai l'impression de découvrir un nouveau paysage. Une publicité au pied du site me ramène dans le monde d'aujourd'hui. L'instant est fugace, car je suis très vite happée par la fascination qu'exerce sur moi la falaise, les replis de sa roche, les trous béants de ses grottes qui abritaient les sanctuaires. Les trous béants, des silhouettes, des bouddhas disparus. La falaise n'en finit plus, nous nous perdons dans les plis et les replis. Failles, coulures, aspérités et zones d'ombre. Elle constitue à elle seule une infinité de paysages. Nous nous y perdons. Nous nous perdons dans la chair de cette pierre, qui vient contraster avec les lumineux et vierges sommets de lignes de couche que l'on distingue à l'arrière-plan, si l'on parvient à s'arracher aux anfractuosités, si l'on parvient à prendre du recul. C'est grandiose. Didier Huberman, dans un paragraphe de son texte « Entre-temps », dont je vous ai déjà lu un extrait, nous raconte également ce geste créateur de Pascal Converte. Voici ses mots. Tu arrives devant cela. Tu regardes. Tu n'en reviens pas. C'est au-delà de tous les sublimes que tu avais imaginés. Tu n'arrives pas à savoir si ce paysage manifeste la plus grande puissance de la nature minérale, ou bien, si elle atteste au contraire, de la plus grande force d'homme, se rêvant les témoins des dieux. Tu regardes. Tu t'aides de drones, qu'utilisent les archéologues professionnels, pour composer une saisissante vue panoramique de la falaise. Tu filmes le paysage du point de vue des moines, dans leurs cellules, et des bouddhas eux-mêmes, fussent-ils absentés désormais. Tu observes l'extraordinaire symphonie chromatique des blancs, des gris, des ocres. Tu filmes les traces, les graffitis, les effacements, la beauté et en même temps cette rage si difficile à comprendre et néanmoins si efficace pour la détruire. Tu t'approches des visages d'enfants qui jouent en contrebas de la falaise. Leurs sourires sont si beaux que le Bouddha lui-même les aurait admirés. Vous l'aurez compris. Ce texte de Didier Huberman et le panorama de Pascal Converte se répondent. Ils sont tous deux exposés dans la Galerie du Temps du Louvre-Lens. L'inauguration eut lieu le 11 mars 2021, sous haute surveillance. Cette Galerie du Temps semble avoir été conçue pour recevoir ton œuvre, nous dit Marie Lavandier, directrice du musée. Ce sont les artistes contemporains qui provoquent les rencontres. En effet, à Lens, les niches vides de ce gigantesque fossile vivant, comme le qualifie Pascal Converte lui-même, font face à 220 œuvres du passé, préservées depuis des siècles. La rencontre est silencieuse, fascinante. Ce relevé archéologique haute définition de cette falaise défigurée, criblée de trous, nous révèle une ville en creux, pleine de grottes sanctuaires, de peintures murales, de sculptures en argile. Ce relevé, fort utile à la communauté scientifique, constitue un véritable objet de mémoire pour les enfants de Bamiyan, pour le peuple Hazara, pour le monde entier. Cet objet de mémoire témoigne de la puissance, mais aussi de la fragilité du patrimoine, dont le souvenir résiste ici même aux outrages. La falaise de Bamiyan a été, elle est et elle sera. L'édification de ces monuments a pris plus de 100 ans. Il aura fallu 15 jours pour les détruire. Comment surmonter la violence de cette destruction ? Comment surmonter le sentiment de désolation ? Faut-il reconstruire ? Complètement ? Partiellement ? Via des images 3D ? Pas du tout, d'après Pascal Converte. Il ne faut pas reconstruire. Ce site est aujourd'hui comme une vague arrêtée, un espèce de tsunami immobile. Le temps est dans les pierres. Ce sont ces mots. Les talibans ont échoué. Ils ont essayé d'effacer la mémoire de ces vestiges, mais la mémoire résiste. Pascal Converte, Georges Didier Huberman, le réalisateur afghan Ali Hazara, l'écrivain Atiq Rahimi et bien d'autres artistes s'y attellent. Ils nous aident à penser à cet après-meurtre. La destruction fait partie de l'histoire. La mémoire est toujours là, au musée Guimet, au Louvre-Lens, mais aussi à Bamiyan, où un centre culturel va bientôt voir le jour face à la falaise. Pour conclure, je souhaiterais vous faire écouter les propos pleins de sérénité de l'écrivain Olivier Germain-Thomas, publié dans une vidéo du Courrier International pour la première fois en 2017.
Quand on va au pied de la niche, on voit l'horrible tas de pierres. On sait qu'il y a eu quelque chose d'abominable qui a eu lieu, mais une fois sur place, j'étais tellement ébloui par la beauté de cette falaise, par l'atmosphère qui y régnait, par une espèce de parfum spirituel qui se dégageait de ce lieu, que je n'ai plus beaucoup pensé, ni aux talibans, puisque les Hazaras sont très accueillants et on se sent vraiment en sécurité là-bas, j'ai plus pensé à la destruction. J'ai eu le dernier soir. Les niches sont orientées vers le sud, donc il y avait une lumière rasante du soir, une immense paix, quelques oiseaux, quelques cultivateurs dans la plaine, en bas, qui cultivaient de la manière comme j'imagine on devait cultiver il y a 1000 ans. Et soudain, j'ai eu cette impression très très forte, intérieure, impression que les Bouddhas étaient là, et que la présence des Bouddhas était là. D'autant plus que, dans le bouddhisme, le vide est une présence extraordinaire, parce que le vide permet justement à l'essentiel d'apparaître.